9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Ce premier dimanche de l'année 2021 m'oblige évidemment, pour le plus grand plaisir, à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle, qu'elle soit faite de bonheur, de beaux projets, de tous vos désirs à réaliser et surtout d'excellente santé. Et à vous aussi, chère Madame Dominique Manotti, merci d'être à Beurre FM pour cette
première année. Mais merci de m'avoir invitée.
Voilà, des bons vœux à tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont à l'écoute de Beurre FM sur toutes les émissions et durant toute l'année et qui sont et nous sommes à leur côté pour partager cette année nouvelle. Dominique Manotti, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Marseille 73. Ce livre est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Vous présentez d'abord Dominique Manotti. Vous êtes une incontournable auteur de polar. Tout le monde le dit que vous êtes une légende du roman noir.
Oui, c'est un peu exagéré.
C'est exagéré, mais en
c'est
tout cas...
C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est pas vous qui le dites, mais on le dit, et je le crois. Je le crois volontiers à la lecture de Marseille 73 et en retrouvant votre biographie et votre bibliographie autour de ce qui vous engage dans cette écriture fictionnelle noire et qui est surtout une écriture d'engagement. Donc, on va très vite parler de Marseille 73. 73, c'est l'année, hein, c'est pas le département.
C'est l'année.
Marseille, c'est le 13 et c'est le 73. Cette année 1973 est dramatique dans ce sud de la France, à Marseille précisément. Une vague d'attentats, d'assassinats, on tue les Arabes, les Algériens précisément, à bout portant, dans une voiture, dans le noir, dans des violences insoutenables. Et plus de 20 Algériens se sont tués par le terrorisme raciste, on va l'appeler ainsi, puisque c'est ainsi qu'il est nommé dans votre roman noir, Dominique Manotti. Et vous allez nous raconter tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche, qu'est-ce qui a fait la construction de cette mémoire d'une histoire occultée, oubliée, quelques décennies plus tard, mais en réalité, elle n'est quand même pas oubliée pour les Algériens. Ça, vous vous en doutez, parce que les Algériens se souviennent, en tout cas ceux de Marseille, c'est-à-dire les nouvelles générations ont dû avoir cette transmission de l'histoire de cette année 73 où il y avait cette vague d'assassinats. Donc des assassinats perpétrés par les nostalgiques de l'Algérie française, par cette OAS, ces pieds noirs qui sont dans une violence extrême, qu'on retrouve plus tard d'ailleurs dans la police. Donc tout ça s'inscrit dans ce roman noir, mais peut-être en introduction, si vous le voulez bien, parler de vous. Parlez de vous dans votre engagement. Vous êtes une femme qui avait publié de nombreux polars noirs et ils sont pas que dans l'intrigue policière banale, j'allais dire, mais plutôt dans une intrigue policière, politique. Donc vous êtes une femme engagée dans votre écriture en général.
Alors je suis une femme engagée dans ma vie. Je ne fais pas des romans engagés au sens très marqué de l'après-guerre où en fait certains romanciers ont fonctionné, si vous voulez, comme des porte-paroles un peu d'un
roman historique peut-être.
Non, moi, si vous voulez, en gros, j'ai une vision du monde qui a été formée dans mes années d'adolescence, comme tout le monde, hein. Et ces années d'adolescence correspondent à la fin de la guerre d'Algérie. Et je crois que vraiment mon engagement fondamental, ça a été à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, je venais d'une bourgeoisie extrêmement classique française. Bon, et j'avais été élevée avec toute l'idéologie républicaine, la grande nation, les droits de l'homme, etc. Et je me retrouve confrontée à 16-17 ans à la guerre d'Algérie, où on envoie l'armée française de la grande nation se battre contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon. Et se battre d'une façon terrifiante. Je veux dire,
La guerre, c'est pas des événements.
Comment?
C'est la guerre, c'est pas des événements comme on les a nommés plus tard.
Oui, ah oui, non, c'est la guerre. Et mon point de vue, si vous voulez, là-dessus, c'est que tout le monde savait, hein, en France. Si moi, j'ai pu le savoir, alors que j'avais 16-17 ans, et que je n'avais aucun engagement à l'époque, c'est que tout le monde savait. Tout le monde savait. Donc, pour moi, ça a été irrémédiable. C'est-à-dire que le point de vue, à partir de ce moment-là, c'est il faut se baser sur ce que font les gens, pas sur ce qu'ils disent. Et c'est la vision que j'ai dans mes romans. Dans mes romans, j'essaye de raconter la réalité.
Une restitution d'une réalité voilà. que vous observez, que vous décortiquez, voilà. que vous analysez.
Que je décortique, que j'essaye de comprendre. Si vous voulez, moi je fais un roman quand il y a un événement qui m'interpelle et que je veux le comprendre. Pour moi, la meilleure façon de le comprendre, c'est de me mettre au travail. J'ai une formation d'historienne.
J'allais y venir, voilà, oui. j'allais y venir.
J'ai une formation.
Votre formation d'historienne, donc les archives, voilà. les faits justes.
Voilà, ce que l'on peut obtenir, les archives, les témoignages, la façon dont on recueille les témoignages et dont on les critique, ce qui est aussi quelque chose qui me sidère toujours, c'est la faible capacité des juges, la faible formation des juges à la critique des témoignages. Ça, je dois dire, c'est un truc qui m'a marqué. J'ai suivi pas mal de procès, j'ai déjà fait pas mal de romans avec des procès. Voir la façon dont les juges traitent les témoignages, ça me sidère. Je me dis, ils devraient faire une formation de base à l'histoire. Parce qu'en histoire, la première des choses qu'on apprend, c'est si on veut approcher un fait, chaque témoignage doit être critiqué, corroboré par d'autres choses. Critiqué par d'autres choses. Aucun témoignage n'est acceptable tel que. La mémoire, il n'y a rien de plus fugace, quoi. Alors, c'est à la fois passionnant, ça livre toute une série de choses, il faut absolument en faire, et il faut les critiquer. Donc, si vous voulez, j'applique cette méthode, je travaille, et à la fin d'un roman, j'ai l'impression d'avoir compris ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, c'est ça mon engagement.
Alors, l'engagement que vous avez, Dominique Manotti, dans ce Marseille 73, est de raconter, de restituer ce qui s'est passé dans cette période de 1973. On est au milieu de l'été, et il commence à y avoir des assassinats. Il y a une s'opère par l'Ouest, je l'ai dit en introduction, par c'est nostalgique de l'Algérie française. Une, ce qu'on va appeler des ratonnades plus tard, mais une mise à l'index des Algériens. Quand avez-vous eu l'idée, voire l'engagement, de l'importance d'écrire cette histoire de 73, de cette année 73?
Alors, ça a été le plus grand des hasards. Mon roman précédent, ou un des romans précédents, pas exactement le précédent, c'était sur Marseille dans le premier semestre 73.
C'était Raquette, non?
Non, Raquette, c'est celui juste avant qui s'appelle Or Noir, qui se passe donc à Marseille au premier semestre de 73 et qui tourne autour de la question du pétrole et du premier choc, la préparation du premier choc pétrolier. Bon. Pour des raisons X, on me demande une nouvelle avec les mêmes personnages, etc. Je me dis, je vais voir ce qui se passe à Marseille après. Et c'est en prenant les journaux de Marseille, enfin de la région, le Provençal et le Méridional, que je découvre, jour après jour, sous une forme strictement de faits divers, strictement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire la succession des morts. Et pour moi, ça a été un choc alors vraiment fort, parce que en 73, j'étais très militante. J'étais militante à Paris. J'étais impliquée dans beaucoup de luttes de travailleurs immigrés en région parisienne. Et il se trouve que je n'ai gardé aucun souvenir. J'ai l'impression de ne pas l'avoir su. C'est peut-être une impression erronée. J'ai peut-être eu quelques informations qui me sont parvenues. Mais en tout cas, rien d'important. Là, ça a été un vrai choc. Et je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça.
Et donc, vous vous mettez au travail.
Je me mets au travail.
Au travail d'archives. Vous descendez à Marseille pour ça?
Oui, bien sûr.
Rencontrer les uns et les autres. On va revenir sur la construction du livre et puis les personnages, puisque c'est un roman noir et donc c'est une fiction sur des faits réels. Et vous avez donc restitué à la fois d'une certaine fidélité, j'en suis sûr, la vie de ces personnages. Hein, on y reviendra. Il y a la famille de Malek qui était le premier qui a été assassiné, le premier jeune Algérien qui a été assassiné à Beauport. Pourtant, il était dans sa voiture, il allait à un rendez-vous, amoureux d'ailleurs, et il est l'un des premiers. Et donc, après, il va se suivre une cascade comme ça d'assassinats. Mais peut-être rappeler qu'on est en 73, mais en 72, pour rappeler un petit peu la période politique, c'est le gouvernement de Georges Pompidou, c'est aussi l'année où on décide aussi qu'il faut imposer une circulaire, c'est la circulaire Marcelin Fontanet, c'est important de le souligner, oui, puisque
très important.
Voilà, avant 72, nos pères qui étaient venus au lendemain des Trente Glorieuses, pour les Trente Glorieuses, reconstruire la France, on leur demandait pas de papier, hein.
Non, absolument.
Ils étaient là, ils construisaient le bâtiment, l'automobile.
C'est la construction des clandestins.
Bien sûr.
La circulaire invente les clandestins. Mmh.
Et donc tout ça a envenimé le statut de dignité, d'humanité de ces hommes qui étaient venus travailler en France.
Leur légitimité, elle met en cause leur légitimité d'existence. Mmh. Mmh.
Et donc on est là, voilà, avec cette circulaire. On est aussi après tous ces attentats avec une décision aussi de l'arrêt de l'immigration. Mais vous, quand vous écrivez, quand vous travaillez, vous enquêtez sur ce qui s'est passé, sur tous ces assassinats, vous commencez par quelle est votre méthodologie pour aller vers la réalité de ce qui s'est passé à Marseille. Vous rencontrez des familles, vous rencontrez des anciens flics, vous rencontrez qui? Comment ça se construit? Après, dans une deuxième partie, on reviendra sur la construction dans le livre de tous ceux qui sont les antagonistes, enfin les personnes, les personnages
du roman noir. Oui, ma première réaction, enfin mon premier mouvement, si vous voulez, c'est le dépouillement de la presse.
Voilà. Vous avez commencé par la presse.
Je commence par la presse. Enfin, à partir du moment où je suis interpellée sur le sujet, si vous voulez. Je prends la presse large, c'est-à-dire sur l'année. Bon, là, j'avais déjà les 6 premiers mois. Donc, je termine mon année de presse. Je lis, je rencontre des gens. Je dois vous dire, à ce moment-là, je n'ai pas rencontré la famille. Je ne suis pas arrivée à rencontrer la famille. J'ai cherché...
La famille de Malek?
Oui.
Le premier jeune qui a été assassiné?
Oui. La famille de Malek, je ne l'ai pas rencontrée à ce moment-là. J'ai rencontré journalistes, j'ai rencontré avocats, j'avais déjà rencontré des policiers marseillais, donc j'ai maintenu le contact avec eux. Bon... compliqué. Oui. Le personnage de Daquin est totalement imaginaire.
Oui, on voit bien. Mais le personnage de Daquin, il est essentiel dans votre littérature de manière générale. C'est un personnage récurrent, c'est un flic récurrent qu'on retrouve dans d'autres livres. Dominique Manotti, vous nous parlez de Marseille 73.
Et puis après, on vous retrouve
dans un instant pour la deuxième partie de notre rendez-vous.
D'accord. Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Dominique Manotti est l'invité de Voix au chapitre et nous parlons de Marseille 73, c'est le titre de son ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Et nous parlons de cette enquête, de ce roman noir qui se passe à Marseille et qui évoque, témoigne de ce qui s'est passé en cette année 73 et qui était le massacre, on va le nommer ainsi, d'Algériens. Et ceci était opéré par l'OAS, par les nostalgiques de l'Algérie française. Et Dominique Manotti, dans une première partie, nous évoquait comment s'était construit son enquête et ce roman au travers... la presse d'abord, une lecture de la presse, ensuite d'avoir rencontré des policiers, poursuivez
des gens, tous les gens, journalistes, avocats, etc. Et je prends aussi, à ce moment-là, tout ce que je peux trouver de textes historiques, de travaux historiques et sociologiques sur la question qui m'intéresse. Je vais, si vous voulez, je fais un aller-retour avec les témoignages. C'est-à-dire, je commence par là, et une fois que j'ai lu toute la documentation que j'arrivais à trouver sur le plan historique, sociologique, etc., politique, je reviens en arrière et je relis mes témoignages.
Et là, vous construisez le livre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette construction, évidemment, c'est historique, hein, puisque oui. L'histoire commence par d'abord un premier drame, un désir. On va pas raconter tout le livre, hein, parce que non. Sinon... mais quand même, pour situer à minima... il y a l'assassinat d'un conducteur de bus par un déséquilibré algérien. Donc là, il y a une montée de violence qui s'opère par cette OAS que je cite encore et par d'autres. Tous ces gens qui sont d'extrême droite et qui sont vraiment à l'affût de dénoncer tous ces Algériens qui vont placarder un peu partout l'immigration sauvage, etc. et qui vont être d'une violence extrême. Et après, il y a l'assassinat de ce jeune Malek. Et après, tout au long du livre, on voit en alternance l'histoire racontée et puis la presse dont vous parlez. C'est important d'avoir un chapitre qui raconte tout ce qui se passe. Et puis le deuxième chapitre, c'est la presse qui témoigne, enfin qui relate ce que vous avez raconté précédemment. Et donc il y a des écarts. Et là, c'est flagrant de non-information pour le coup.
Oui, mais c'est très important parce que c'est, je crois,
on minimise
que c'est quelque
l'actualité.
Chose qui continue. On traite tout ça comme des faits divers.
Voilà.
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas que la presse. C'est-à-dire que ce qui est ahurissant, c'est aussi la façon dont l'ensemble de l'institution policière, comme de la justice, faut pas parler que des policiers dans l'affaire. La justice les couvre totalement. Et police, justice, il ne se passe rien. Et au-delà, je sais pas si vous avez noté, mais on a des déclarations de Pompidou, le président de la République, qui dit la France n'est pas un pays raciste.
Oui,
donc,
sûr.
Il n'y a pas de crime raciste. Donc, c'est pas
personne
des crimes racistes.
On parle de règlement de compte, même.
On parle de règlement de compte entre corréligionnaires. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut quand même noter. C'est que depuis la conquête, la France parle de musulmans. Quand l'Algérie est rattachée à la France, annexée à la France, on parle de Français musulmans. Et on les identifie par leur religion. Et quand il y a des crimes, etc., c'est sans doute, certainement, commis par un règlement de compte de co-religionnaires. Bon, on a oublié la laïcité en cours de route. L'identité, c'est la religion pour eux. C'est hallucinant.
Bien sûr. Sur cette construction du livre toujours, pour pas le raconter, mais quand même, vous avez identifié des personnages. Vous avez créé des personnages. Hein. Il y a la police, il y a les habitants, il y a l'Union des Français repliés d'Algérie, donc l'organisation des Pieds Noirs. Tout ça, c'est par exemple cette Union des Français repliés d'Algérie, c'est un groupe, un regroupement de Pieds Noirs. Vous les avez rencontrés concrètement?
Non.
Non.
Et je les ai inventés.
Vous les avez inventés?
Ah oui.
Leurs propos ne s'inventent pas. Pour le
ah
coup,
bah non.
Vous avez
écrit. Ils écrivent.
Voilà.
J'ai lu des journaux. J'ai
voilà.
lu des bulletins.
Mmh.
Voilà. J'ai lu des échanges. Non, ça j'ai lu beaucoup de choses.
Bien sûr.
Mais je ne les ai pas rencontrés et le nom précis de l'association était différent.
Oui, absolument, oui.
Donc je voulais pas avoir d'ennui avec des associations qui continuent à exister.
Voilà, c'est ce que je veux dire, parce qu'elles existent encore, hein.
Oui.
Il y a encore des associations de pieds noirs qui sont. Après, il y en a d'autres qui sont pas dans l'obscurantisme comme ça, qui sont pas dans cette extrême droite. Hein. Il y en a qui sont quand même plus ouverts. Hein. On en connaît, mais en tout cas, il y en a un paquet qui sont effectivement dans cette mouvance de nostalgie d'une Algérie française. Et vous avez raconté aussi l'organisation de tous ceux qui vont s'organiser, parce qu'il y a toute une organisation, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous écrivez, c'est l'organisation qui est faite de tuer de l'arabe, parce que c'est comme ça qu'ils le disent, hein, de cette immigration sauvage, de tuer de l'arabe, etc. Donc je pense au comité de défense de Marseille, c'est pareil. Sans doute que cela a été inventé aussi.
Le CDM. Alors si vous voulez, là je suis beaucoup plus libre parce qu'il n'existe plus.
D'accord.
Le CDM est absolument authentique et les tracts et les affiches du CDM sont ce qu'il a fait.
Immigration sauvage, etc.
Oui, absolument. Non, ça c'est absolument authentique. Et c'est bon, c'est. Il faut rappeler aussi que 72, c'est l'année de création du FN.
Oui.
Et il faut rappeler aussi
que le pied noir, ce courant, pardonnez-moi, ce courant rejoint le FN du coup,
dans cette
construction à Marseille.
Oui. Et il y a, oui, absolument. Et il y a aussi, alors un peu plus éloigné, mais qui est quand même très proche des faits, l'amnistie générale de l'OAS en 68.
Oui.
C'est-à-dire que là, c'est terminé.
Voilà, on met une croix et
on met une croix.
Voilà. On tourne la page et on oublie la violence et la terreur que subissaient les Algériens.
Et beaucoup redescendent s'installer dans la région de Marseille. Mmh. Alors il y aura ensuite un dernier fait d'amnistie de Mitterrand qui va rétablir les carrières des généraux. Mais les généraux sont déjà amnistiés par De Gaulle en 68. Ça, il faut pas l'oublier, cette amnistie générale. Elle pèse lourd quand même en France. Mmh.
Dans cette construction du livre, toujours, qui est intéressant, alors là, on parle de l'aspect OAS, pied noir, mais il y a l'autre aspect qui est l'aspect de l'organisation des Algériens.
Absolument.
Et ça, c'est important. Elle est très
forte. Arabes.
Voilà, des Arabes. Exactement. Vous le soulignez précisément. C'est pas les Algériens, c'est les Arabes. Et ces Arabes, ils vont, quand il va y avoir un certain nombre d'Algériens tués.
Oui.
Ils vont s'organiser, ils vont manifester, ils vont faire grève. Et là, ils vont faire peur, du coup. Ils vont être dérangeants.
Exactement.
Et là, ça va être une force.
Et là, c'est leur histoire.
C'est leur histoire,
oui.
Tout à fait. Vous avez là aussi retrouvé les tracts qui appelaient à la manifestation, à faire grève,
absolument.
Etc.
Il y a vraiment
c'est une belle écriture que vous avez pour parler de ce qu'ils font quand ils décident de faire la grève aussi. Parce que on n'a pas parlé de l'écriture encore, mais je m'y arrête parce qu'il y a effectivement une manière d'écrire qui est une force aussi d'accompagner les Algériens dans leur lutte, là aussi, pour dénoncer la violence et la terreur qu'ils subissent.
Oui. Ah oui, l'expérience du MTA, le mouvement des travailleurs arabes, est une très très belle expérience, vraiment. Très belle expérience. Les mouvements qu'ils ont déclenchés à ce moment-là dans la région sont sans exemple et malheureusement sans postérité.
Et pourtant,
ils ont gagné.
Oui, bien sûr. Ils ont gagné. Mais ça s'est poursuivi à Paris. Moi, j'ai le souvenir, à titre personnel, pardonnez-moi, que lors de cet assassinat, précisément, c'était l'assassinat de cet homme qui faisait la garde devant le consulat d'Algérie, quand il y a eu une bombe, etc. À Paris, la communauté algérienne, si on l'appelle ainsi, s'est mobilisée à manifester pour dénoncer la violence que subissaient les Algériens à Marseille. Hein. Moi, j'en ai le souvenir.
Tout à fait d'accord. Mais là, leur spécificité au MTA,
c'était d'être local et régional.
C'est local, régional, et c'est des travailleurs. Et ils organisent des grèves exclusivement de travailleurs immigrés, qui ont un succès incroyable. Incroyable. Moi, je l'ai découvert, franchement.
Ils sont soutenus par des forces de gauche de l'époque?
Alors, ils sont soutenus, la vérité, si on peut la dire, c'est qu'ils sont aidés considérablement par l'extrême gauche, qui va leur servir de service d'ordre.
De service d'ordre, oui.
Oui. Ce qui est quand même très très important.
Ils en ont besoin parce que
ils en ont besoin absolument et il y a eu de vraies bagarres. Je me suis pas appesantie là-dessus, mais il y a eu de vraies bagarres autour des manifs. Là, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire aussi. Ce qu'il y a de spectaculaire, c'est qu'une manif organisée par le MTA dans les quartiers nord, pas de problème.
Au centre-ville, ça va pas.
Si ça passe la Canebière, Ils sont tabassés méchamment. Un de mes amis qui était alors dans le service d'ordre m'a raconté qu'il prenait des pots de d'urine sur la tête. On leur déversait de l'urine depuis les balcons.
Ah oui, non, c'était d'une violence extrême. Sur les personnages.
Alors, je dis aussi, comme autre soutien, très important, et les choses ont beaucoup changé,
la CIMADE, bien sûr.
Et l'Église catholique.
Toujours aux côtés des migrants, encore aujourd'hui.
Oui, mais là, vraiment fort.
Hein. Oui.
L'archevêque de Marseille, au moment des grèves de la faim, leur offre des locaux.
Et le président de la CIMADE est expulsé.
Et le président de la CIMADE, alors une véritable histoire de... Ouais.
Grand personnage aussi.
Ah, oui, et c'est grotesque. Enfin, on expulse... Il est protestant, il est responsable de la CIMADE sur Marseille depuis des années, pasteur, suisse, et comme il est étranger, on l'expulse en urgence absolue. Comme vraiment responsable d'un épouvantable explosion, enfin terrorisme et tout, c'est absolument ridicule.
Sur les personnages que vous dressez dans votre livre, donc il y a la police, il y a la justice, il y a des personnes, justement un portrait de cet homme de la CIMADE. Et puis il y a aussi les habitants, pour que on ait un vrai regard global sur tout ce qui va être l'entourage de ce drame de 73 qui était l'assassinat de tous les Algériens. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu construire tout ce mouvement de vie, ce mouvement social, ce mouvement d'engagement, en les faisant se rencontrer. Il y a la police qui rencontre la justice, et puis il faut aller voir un petit peu du côté, on envoie d'Aquin, on voit des gens de son équipe aller traîner du côté de l'OAS, enfin tout ça. Tout ça, c'est la construction du polar, certes, mais en même temps, c'est des choses qui ont existé, sans doute.
Ah ben ça a existé, les ouais. cafés ont existé.
Les cafés des
Toubibs, tout ça, ça a existé absolument. Mais c'est tous les témoignages, si vous
Bien
voulez.
Sûr.
Ça, tous mes amis qui étaient à ce moment-là dans les mouvements d'extrême gauche m'ont raconté tout ça. J'ai interviewé un journaliste qui avait été un correspondant très actif à l'époque. Et par exemple, les cafés, c'est lui qui m'a tout raconté. Il était corse et fils de capitaine parachutiste, donc il avait le droit d'entrer dans tous les cafés depuis.
Il était une mine d'informations pour vous.
Ah, il a été une mine d'informations absolument remarquable. Bon, voilà cette vie, si vous voulez. Là, c'est là que le témoignage est absolument vital et que le témoignage est véridique.
On va poursuivre avec vous, Dominique Manotti. Je rappelle que vous parlez de Marseille 73, votre livre paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Dominique Manotti est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche, je le rappelle. Son livre, Marseille 73, vient de paraître aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Et Marseille 73, c'est le rendez-vous avec l'histoire. Une histoire douloureuse, dramatique, qui était l'assassinat dans cette année 1973, dans cette deuxième partie de l'année. Ça a commencé en août jusqu'à plusieurs semaines, des assassinats d'Algériens à Marseille. Des assassinats opérés par l'OAS, par les nostalgiques de l'Algérie française, je l'ai déjà dit, mais ça va mieux en le répétant. Donc, votre enquête, Dominique Manotti, Marseille 73, c'est, vous l'avez dit tout au long de ce début d'émission, ce rendez-vous avec l'histoire et dresser des personnages. Alors, il est un personnage qui revient, qui est peut-être un petit peu central, si je puis dire. C'est d'Aquin, c'est un policier qui est accompagné avec d'autres et qui va enquêter avec une certaine rigueur. C'est aussi important, la rigueur de la police, même si on sait que des fois, elle est défaillante.
Elle est défaillante. Oui, c'est compliqué. Hein. De toute façon, c'est vrai que c'est.
On essaie d'avoir la rigueur, mais il y a des embûches. Ouais.
C'est un métier compliqué, mais là, dans la situation marseillaise, si vous voulez, la police est vraiment taraudée par une multitude de conflits internes, de rivalités, etc. qui la rendent, on va dire, relativement peu efficace. Le personnage de Daquin est complètement inventé. Mmh. Je veux dire, ce type de personnage, je ne l'ai pas du tout rencontré à Marseille dans ces années-là. Enfin, c'est complètement inventé, mais il en fallait un pour mener l'enquête à bout.
Mmh. Et il y a la police, il y a la justice, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la justice aussi, elle a son poids de responsabilité dans
énorme.
Les... Énorme.
Voilà, énorme. Parce que, mais voilà. Là, c'est pas une situation uniquement marseillaise. Ouais. Il faut vraiment prendre conscience. La justice a une responsabilité énorme parce qu'elle couvre la police.
Ouais. Et si elle couvre la police, c'est qu'elle est couverte au-dessus aussi.
Elle est couverte au-dessus, bien évidemment. Mais dans l'exercice de son métier, faut quand même pas la dédouaner, hein, je veux dire. Alors, il me semble que dans la situation actuelle, ça commence très légèrement à changer. Et c'est à la fois intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, dans les tout derniers mois qu'on a vécu, il y a plusieurs décisions de justice qui remettent en cause un tout petit peu l'innocence de la police. Mais c'est tout à fait parcellaire, ça commence tout juste, et je ne sais pas s'ils arriveront au bout, parce que il y a en face d'eux un bloc policier qui prend tous les moyens pour se couvrir.
Bah, on voit bien dans l'actualité, effectivement.
Ouais, hein, tous les moyens pour se couvrir. Et dans une certaine mesure, la justice n'arrive pas à déboucher. Parce que on lui dit, on sait pas qui l'a fait. Bon, on sait pas qui l'a fait, donc c'est personne. Ouais. Donc, mais là, on peut quand même mesurer la différence avec la situation en 73, où là, c'est vraiment un dogme. Pour la justice, c'est un dogme. Elle est là pour couvrir l'activité policière. Et elle le fait. Très bien.
Et on va faire un bond en arrière, si vous le voulez bien, Dominique Manotti. On va parler du 17 octobre 61, juste un instant. La police, préfet de police, Maurice Papon. Et à cette époque, la police est couverte par le ministre.
Elle est plus que couverte.
Elle est couverte par le ministre et par son préfet. Elle est couverte aussi par les plus hautes autorités de l'État à l'époque, le général de Gaulle. C'est-à-dire que quand la police est couverte, ça lui laisse... toutes les possibilités de faire ce qu'elle est en train de faire hier, ce qu'elle a fait en 73 et ce qu'elle peut commettre encore depuis quelque temps, quoi.
C'est certain. Puis en plus, 61, on est en guerre. Et on n'a pas... moi, je travaille justement un peu en ce moment sur la période de la guerre d'Algérie. Je crois qu'on n'est pas encore tout à fait conscient de ce qui a été fait pendant la période. Je crois que vraiment, il y a encore pas mal de choses à dire et à raconter sur la façon dont a été menée cette guerre.
La violence, la torture.
La violence, la torture, l'utilisation des gangsters, les meurtres individuels, très nombreux.
Ici, en France.
En France et partout en Europe.
Non, mais je veux dire, dans votre travail.
Partout en Europe.
Bien sûr.
Partout en Europe, on assassine des avocats, on assassine des marchands d'armes, on assassine des militants. Où qu'ils se trouvent, c'est très impressionnant. Et pour le faire, on recrute des gangsters. Donc il y a là quelque chose à raconter. Bon, et en tout cas, oui. Alors moi,
alors justement sur
61,
quelque chose,
je l'ai vécu par contre.
Oui. Vous l'avez vécu. Vous étiez à Paris.
Oui, j'étais à Paris. Le 17 octobre, je l'ai vécu. À l'époque, on n'a pas manifesté parce que le FLN voulait que ce soit une manifestation exclusivement algérienne.
Quelques Français qui ont manifesté, mais ils étaient observateurs. En dehors, voilà. Ils n'étaient pas dans les rangs de la manifestation, voilà. Mais sur les côtés.
Oui, voilà. Moi, j'étais sur les grands boulevards. Non, c'est une horreur absolue. Une horreur absolue.
Alors justement, quelque chose à raconter. On va s'arrêter sur ce que vous racontez dans ce livre. Quel sens ça a pour vous? C'est pour donner à comprendre ce qui s'est passé en 73, parce que c'était oublié, occulté, oublié.
Si vous voulez, mon point de vue, c'est que j'essaye de réécrire, d'écrire, enfin, à mes petits moyens, si vous voulez. Notre histoire, c'est notre histoire. C'est pas l'histoire des Algériens.
C'est l'histoire de France.
C'est l'histoire de France. Et ce qui m'a alors énormément frappé, c'est que tous les personnages sont inventés. Hein. même la famille ne s'appelle pas comme ça, et j'étais pas arrivée à les joindre à l'époque, donc j'ai inventé les personnages, enfin, j'ai inventé en suivant ce que je savais des événements, mais j'ai inventé les personnages. Bon. Tous les gens présents dans le roman m'ont contacté depuis. Ça, c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé. La famille, le type de la CIMADE, le responsable du MTA, que je n'avais pas non plus contacté, j'avais contacté des gens qui y étaient, mais le type qui s'appelle Béchir dans le roman, je le connaissais pas. Ils m'ont tous contacté, c'est-à-dire que là, on voit...
Après avoir lu votre livre,
là, on voit à quel point ce que vous disiez tout à fait au début de l'émission est extrêmement vrai. Il y a des gens pour lesquels c'est un souvenir impossible à contourner, qui ne s'effacera pas. Il y a des gens comme moi qui sont passés à côté, mais les gens qui l'ont vécu, ça les a véritablement marqués, ils s'en souviennent toujours, et ils ont pris ce livre vraiment bien, vraiment bien. C'est-à-dire qu'ils ont été heureux qu'on raconte ce qu'ils ont perçu, et là pour moi c'est formidable, ce qu'ils ont perçu comme leur histoire, alors que je les avais pas contactés.
Parce que du coup, il y a une certaine humanité, une certaine dignité aussi à lire aussi votre livre.
Absolument, absolument, oui. Oui, ce sont les deux frères de la victime sont des héros. Ouais. En fait, si l'enquête finit par aboutir sur la découverte de l'assassin, dont on ne dira rien parce voilà. que
parce qu'il faut lire le livre,
faut laisser le plaisir.
Bien sûr.
De
c'est pour ça que je ne veux pas rentrer trop dans le livre.
Ouais, ouais.
Voilà, on donne les contours, mais c'est important.
Mais si le gars, on finit par le trouver, c'est grâce aux frères. Ouais. C'est grâce aux frères. C'est eux les véritables héros de l'affaire, si vous voulez.
Et le père aussi.
Et le père,
très malade,
absolument. Et le père
qui dit,
bien sûr.
Dit,
et le père.
Il faut retrouver celui
qui a tué l'assassin.
Oui, il faut retrouver l'assassin.
Il faut tuer l'assassin.
Et donc les frères vont s'y mettre. Et il y a aussi des, je disais rapidement tout à l'heure, mais j'y reviens, sur cette écriture à la fois sereine, ou en tout cas, j'allais dire bienveillante, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais en tout cas, de compréhension, d'écoute du père,
d'écoute,
par exemple.
Oui.
Voilà, d'écoute, il y a quand même une... Vous avez une manière d'écrire qui est tout à fait intéressante.
C'est les cahiers de mai.
C'est les cahiers de mai.
J'ai appris à écrire dans les cahiers de mai.
Rappelez-nous ce que c'est que les cahiers de mai pour les auditeurs.
Les cahiers de mai, c'était une publication, un journal, qui se donnait comme rôle, dans les années qui ont suivi 68, de récolter des récits de lutte et de les faire circuler. Voilà. Donc, pour récolter les récits, il faut savoir écouter.
Voilà.
Et c'est très important.
Et on voit bien que c'est une belle écoute, en tout cas, pour vous, si vous ne les avez pas écoutés directement la lecture, vous les a fait écouter d'une certaine manière dans
oui.
ce que vous dites
oui, absolument.
Voilà, par rapport à... Alors voilà, on aurait encore longtemps à parler, mais en même temps, il faut pas tout dévoiler, effectivement, même des personnages. Le gros Marcel, c'est quand même quelqu'un aussi...
Complètement inventé, mais
drôle.
Je trouve qu'il personnifie bien, oui.
Voilà, c'est ça.
Et c'est ça le problème d'un roman, si vous voulez intéresser les lecteurs, il faut que ce soit vivant, il faut donc trouver des personnages qui vivent.
Et puis la rencontre de Daquin avec son compagnon Vincent, qui est un compagnon de lit, comme il dit, en tout cas, parce que c'est pas en vrai, ils s'entendent pas très bien finalement.
Non,
ils s'entendent pas du tout même. Donc voilà, on est dans une histoire. C'est vrai que c'est des personnages qui sont à la fois attachants, enfin si on peut dire, en tout cas de la police pourrait pas dire attachant. On a envie de quand même de dénoncer un peu les pratiques policières, mais tous ces personnages des comités de défense, de l'OAS, de Pieds Noirs, c'est d'une terrible violence. Hein, ce qu'ils faisaient, c'est insoutenable.
Terrible, et je trouve qu'il faut quand même le redire aujourd'hui.
Il faut le dire, voilà.
Parce que c'est quand même, il y a des bouts de phrases entiers qu'on continue à entendre aujourd'hui, ou qu'on recommence à entendre aujourd'hui.
Ils voulaient leur pays, qu'ils retournent dans leur pays. Enfin, c'est les slogans qui sont revenus.
Absolument.
L'immigration sauvage.
Qui rentrent chez eux.
Qui rentrent chez eux. Enfin, c'était encore aujourd'hui, dans l'extrême droite, on a entendu ces propos-là. Et c'est du racisme, et c'est intolérable, effectivement, comme pratique verbale, il faut le dénoncer. Et je m'arrête, on n'a plus beaucoup de temps, mais un mot sur la presse encore. parce que la presse, elle a pas été vraiment à, c'était du fait divers, quoi. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, il y a quand même plus de courage dans la presse de dire
oui.
les choses. Dans
oui.
une certaine presse, en tout
oui,
cas.
Oui, elle est plus mûre.
Elle est plus
mûre. Oui, absolument. Alors, il y avait une presse d'extrême droite extrêmement virulente, comme le Méridional, qui est quand même, je ne crois pas qu'on pourrait avoir aujourd'hui un quotidien qui dirait les mêmes choses. Donc, une presse extrême droite extrêmement virulente. C'était un quotidien oui. régional.
Qui était beaucoup, beaucoup lu à Marseille.
Beaucoup lu, beaucoup lu, beaucoup lu.
Et il y en a eu des manifestations devant le Méridional, hein.
Oui. Ah, oui. Oui, 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 oui. Et peu de réflexion, oui, oui, absolument peu de réflexion contre ce type de racisme, etc. Bon, voilà, donc encore beaucoup de boulot à faire.
Merci, merci infiniment de
merci
m'avoir
à
dit.
Vous.
Marseille 73, c'est le titre de votre ouvrage. Il est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. C'est un livre qu'il faut lire vraiment parce que c'est une histoire d'hier, mais qui est révélatrice de ce que peut l'on vivre encore aujourd'hui face aux violences policières. En tout cas, merci de ce travail, merci de ce roman noir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir Dominique Manotti.
Au revoir et merci.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.